La psyché et ses lois, première partie. Bonjour, je suis Véronique Brard et j'enseigne le Voss Dialogue. Le Voss Dialogue est un dialogue extérieur entre un facilitateur formé à la psychologie des copersonnalités et de l'ego conscient et un facilité. Le Voss Dialogue est utilisé en thérapie, en coaching ou encore en supervision entre pairs. Cette psychologie particulière a été inventée dans les années 70 par Hall et Sidra Stone, deux psychologues et psychothérapeutes qui habitaient Albion, en Californie. Le Voss Dialogue, c'est l'outil d'exploration de la psyché qui est privilégié dans cette psychologie particulière. Le Voss Dialogue a pour but le développement d'un ego conscient. Un ego conscient, c'est différent de l'ego fonctionnel, qui est notre ego ordinaire. Hall Stone nous a quittés en mai 2020. Sidra reste active et préside la communauté internationale de Voss Dialogue. Pour en savoir davantage sur ces deux personnes passionnantes et sur leurs découvertes, je vous invite à lire le livre de Diane Braden, « Le couple comme chemin », qui relatent leur vie et leur travail. En effet, leur découverte sur la psyché est assez inséparable de leur vie. Ce livre est disponible sur mon site et sur Amazon. Pour comprendre comment le Voss Dialogue s'est construit, je vous invite à télécharger gratuitement sur mon site les éléments fondamentaux du Voss Dialogue, un récit d'Al et Sidra Stone. Mon site voice-dialogue-france.fr. Le thème de ce podcast, « La psyché et ses lois », vient du travail de Hall et Sidra Stone. J'attire votre attention sur le fait que ce podcast s'adresse plus particulièrement à ceux qui pratiquent le voice professionnellement ou qui l'apprennent. Notre travail de conscience commence avec la compréhension et l'acceptation de ce que nous sommes. Cela rend possible le développement d'une vision consciente, puis peu à peu d'un processus d'ego conscient. C'est un travail d'amour pour soi, d'amour inconditionnel pour la forme que prend le vivant en nous et chez les autres. Comprendre que notre psyché répond à des lois favorise cette acceptation et cet amour de soi. Lorsque nous connaissons ces lois, nous évitons certaines impasses qui entraînent des critiques sur nous-mêmes ou sur ceux que nous accompagnons. On peut faire le parallèle avec les lois physiologiques. Nous ne pouvons pas plier notre coude vers l'arrière ou notre genou vers l'avant. Aucun critique ne nous en veut pour ça. De même, savoir ce qui est possible ou ce qui ne l'est pas au niveau des lois psycho-énergétiques nous évite de chercher à faire ce qui n'est pas possible. Nous créons une bonne partie de notre réalité. Il est donc important d'intégrer que nous ne pouvons créer cette réalité que dans le cadre des lois qui régissent la matière, que ce soit la matière dense de notre corps physique ou celle plus subtile de notre énergie psychique. Dans la vision du Voss Dialogue, nous sommes sans cesse amenés à intégrer des opposés, à accepter la dualité de ce monde et à danser avec elle. Cette danse avec nos opposés, qu'ils soient intérieurs ou extérieurs, n'a rien d'aisé ni de facile et répond à certaines lois que nous ne pouvons pas contourner. En fait, il est important de comprendre que le Voss Dialogue, la psychologie des copersonnalités et de l'ego conscient, repose sur des lois psycho-énergétiques. Tout le travail de Hall et Sidra est basé sur ces lois et nous amène à les utiliser de façon de plus en plus consciente. Le Voss Dialogue est d'abord et avant tout un outil pour développer notre conscience. J'aimerais rappeler, pour finir cette introduction, que la conscience qui se manifeste en nous comme autour de nous ne juge pas ses propres manifestations. Elle ne souhaite pas notre bonheur ni notre malheur, elle ne nous punit pas, elle ne nous condamne pas, elle ne nous encourage ni ne nous récompense, elle est. Dans cette première partie, je vais vous présenter quatre lois qui président au développement de la psyché, et puis neuf autres lois qui sont les lois de base du fonctionnement psychique. Dans une seconde partie, nous verrons les lois qui servent la conscience et notre réalisation. Revenons donc à ces lois qui président au développement de la psyché elle-même. Quatre lois sont fondamentales à la construction et au développement de cette psyché. La première, nous développons un système primaire qu'on nomme aussi un ego fonctionnel. Ego, ego fonctionnel, ego opérationnel sont pour nous des synonymes. Tous les êtres humains vont développer, parfois déjà in utero, un ensemble de parties primaires qui vont former cet ego ordinaire. Ce sont des copersonnalités qui vont nous permettre de nous adapter au mieux, au milieu dans lequel nous sommes nés. Elles vont dépendre des événements de notre enfance, de ce qui est valorisé dans notre culture, etc. Ces copersonnalités sont des variantes individuelles des grands archétypes propres à la race humaine. Ces copersonnalités primaires sont ce que nous disons, ce que nous pensons de nous. Elles ne sont pas forcément ce que les autres voient de nous. Prenons un exemple. Georgette pourra se définir comme une personne généreuse et altruiste. C'est ce qu'elle dit d'elle et c'est ce qu'elle pense d'elle. Sa copersonnalité primaire est la généreuse, c'est la partie qu'elle valorise, et l'égoïste est sa partie reniée. Elle peut être visible par ses amis, par ses proches, mais non par elle, car cette partie est désavouée. Nous ne pouvons pas voir chez nous les parties que nous n'aimons pas. La seconde loi, c'est que tous les opposés au système primaire développé sont le plus souvent reniés. Pour chaque copersonnalité primaire développée, comme l'actif, comme le généreux, comme le rationnel ou le patriarche ou le responsable ou encore une partie spirituelle, il va exister de l'autre côté une ou plusieurs parties de nous qui vont généralement se retrouver exclues du système. Nos rêves mettent en scène ces jeux entre nos énergies primaires et nos énergies reniées. Voici un exemple très simple. Une femme de 50 ans fait ce rêve. Je me bats avec un serpent, un python de 15 mètres que j'essaie de faire rentrer dans une boîte et je suis totalement épuisée. C'est une excellente image pour décrire ce qui se passe lorsqu'une énergie primaire rationnelle tente de repousser et d'enfermer une énergie instinctive. Automatiquement, celle-ci grossit et devient dangereuse. La partie primaire continue de vouloir la faire rentrer dans sa boîte pour assurer la sécurité de la personne. L'énergie de la partie reniée n'est plus disponible et toute l'énergie de la partie primaire se perd à vouloir empêcher cette boîte de s'ouvrir. Nous pouvons comprendre que tout le système, physique et psychique, s'épuise. Troisième loi, une énergie reniée va toujours finir par se renforcer et au final par nous déborder. Toute énergie reniée finit par nous envahir. Cette loi énergétique est particulièrement importante lorsqu'il s'agit de la vulnérabilité reniée, de l'agressivité reniée ou de la sexualité reniée. Voici un autre rêve devenu un rêve type, celui d'un prêtre de 45 ans. Je me bats avec un pénis ivre sous une douche froide. Nous avons ici quelque chose de parfaitement naturel, un pénis, qui est devenu disproportionné et ingérable parce que cet homme a essayé durant des années de le renier. Il est certainement possible de sublimer sa sexualité, non de la renier. Enfin, la quatrième loi, tout enfant maltraité développe un persécuteur intérieur. Nous développons tous un critique intérieur dont le travail est de nous aider à nous adapter. Chez certains, se développe également un persécuteur intérieur qui les handicape. Il faut savoir que le mental, au tout début, se développe de façon binaire. Je reçois du bon, je suis bon. Je reçois du mauvais, je suis mauvais. C'est l'origine de ce persécuteur qui, à cause de cette perception mentale schématique, simpliste et erronée, cherche à ce que l'enfant redevienne quelqu'un de bien, quelqu'un qui reçoit du bon. Je vais prendre l'exemple d'un petit garçon, Dominique, 6 mois. Sa mère est malade et doit être hospitalisée. L'enfant, bien sûr, se sent abandonné. Il reçoit du mauvais, ce qui, pour ce mental naissant, veut dire qu'il est mauvais. Le critique se met donc au travail pour l'améliorer. Malheureusement, la maladie de la mère ne dépend pas de l'enfant et la souffrance continue. C'est là où le critique va se doubler d'un persécuteur intérieur avec son impulsion destructrice « Cache-toi, tu ne vaux rien, tu ne mérites rien, etc. » Que nous travaillions sur nous-mêmes ou avec un client, ces quatre lois sont vraiment fondamentales à avoir en tête. Nous allons voir maintenant 9 autres lois qui sont la base de notre fonctionnement psychique. Je vais d'abord vous les énumérer. Première loi, l'énergie est naturellement en mouvement. Deuxième loi, l'énergie suit l'attention. Troisième, le lien énergétique spontané avec l'autre prend la forme d'un double lien parent-enfant. C'est un peu complexe, mais je vais tâcher de vous expliquer ça le plus simplement possible. La quatrième et la cinquième loi vont ensemble. Les énergies entrent naturellement en résonance les unes avec les autres et elles s'induisent les unes les autres. Sixième, les énergies opposées s'attirent, se polarisent et se jugent. La septième loi, toute énergie reniée est projetée. Huitième, l'énergie est neutre en termes de valeur. Et enfin, la neuvième loi, nous ne pouvons voir que ce qui existe déjà dans notre conscience. Revenons sur le premier point. L'énergie est naturellement en mouvement. Lorsque l'énergie est libre, l'énergie est naturellement en mouvement entre deux opposés. Ce qui, au niveau psycho-énergétique, se traduit par un mouvement entre un côté puissant et un côté vulnérable. Lorsque l'énergie présente chez une personne est suffisamment valorisée et étirée, ce qui peut prendre plusieurs séances, l'énergie opposée peut se présenter spontanément. En général, l'une est davantage du côté pouvoir et l'autre davantage du côté vulnérable. Lorsqu'une personne est réconciliée, aussi bien avec ses parties fortes qu'avec ses parties vulnérables, il peut exister dans une même séance une culbute énergétique entre le pôle pouvoir et le pôle vulnérable. Prenons l'exemple de Florence. Florence a décidé de débuter une activité professionnelle. Quand elle commence la séance, la copersonnalité confiante et sûre d'elle est présente. Elle m'explique qu'elle est prête à prendre son pouvoir. Il est grand temps pour elle qu'elle gagne sa vie avec ce qu'elle sait faire. Elle est prête à louer un local relativement cher et à signer un bail. Elle se sent certaine de réussir et de pouvoir enfin accomplir ce qu'elle désire, se mettre à son compte. Sur l'autre chaise, celle de la vulnérabilité, c'est une toute autre histoire. Florence est méconnaissable. Recroquevillée sur sa chaise, elle respire à peine. Un enfant vulnérable est maintenant présent. Il m'explique qu'il est terrifié, que le compagnon de Florence est contre ce changement de vie et que lui, l'enfant, est certain qu'elle va aller de déboire en déboire et finir avec des dettes, comme c'est déjà arrivé. Ce qui va être important pour Florence, c'est de construire maintenant un processus d'égo conscient. C'est-à-dire que ni identifiée à sa partie forte, ni à l'enfant vulnérable, Florence pourra prendre en compte, dans sa réalité actuelle, ces deux parties d'elle-même. Même si elle doit négocier avec l'un et négocier avec l'autre, c'est certainement un gage d'une meilleure réussite dans son entreprise. Il est à noter que notre partenaire est souvent la voix de l'une ou de l'autre de nos parties. Négocier avec lui revient à négocier avec cette voix que nous ne voulons pas toujours entendre. Deuxième loi, l'énergie suit l'attention. L'énergie suit non pas la pensée, mais notre attention. Là où nous mettons notre attention, là va notre énergie. C'est une loi simple et facile à utiliser. Troisième loi, le lien énergétique spontané est un double lien parent-enfant. Nous sommes des êtres de lien et notre façon naturelle d'entrer en lien avec l'autre se fait sur le modèle d'un double lien parent-enfant. C'est notre manière naturelle et normale d'entrer en lien. Nous sommes toujours à la fois dans le rôle de l'enfant et dans celui du parent. Même lorsqu'une analyse un peu superficielle nous placerait davantage dans un pôle que dans l'autre. Ce lien énergétique est normalement dynamique. Nous allons et venons librement entre ces deux positions, selon les situations, les événements. Et surtout, de nombreuses autres copersonnalités entrent dans la danse. Ce lien, cependant, peut s'immobiliser. C'est l'ancrage. C'est comme si alors nous nous réduisions à ces rôles parents-enfants. Cela peut être très agréable au début. Seulement, cet ancrage va le plus souvent finir par devenir clairement négatif. Quatrième loi, les énergies entrent naturellement en résonance. Les énergies entrent en résonance les unes avec les autres. C'est ce qui permet la facilitation. Lors d'une séance de voice dialogue, le facilitateur va résonner avec l'énergie du facilité et ainsi pouvoir aller dans la même énergie. Il va s'aligner avec les énergies du facilité et, de cette place, étirer l'énergie ou la copersonnalité. Énergie, copersonnalité, moi sont ici des synonymes. Cette loi de résonance est aisée à expérimenter. Si une personne commence à rire dans un groupe, bientôt tout le groupe va se mettre à rire. Si une personne commence à critiquer, elle peut aussi entraîner tout le groupe avec elle. Ce qui nous amène la loi suivante, la cinquième loi. L'énergie est naturellement inductive. Non seulement les énergies entrent en résonance, mais les énergies vont s'induire les unes les autres. Nous vivons constamment ces sortes d'inductions énergétiques. L'art d'un bon conférencier, d'un acteur, d'un chanteur même, est basé sur cette loi d'induction. Le praticien en voice dialogue va se servir consciemment de cette capacité d'induction pour maintenir ou soutenir une énergie qui s'est manifestée dans la séance ou, lorsque c'est nécessaire, pour induire un opposé à cette énergie chez le facilité. Sixième loi, très importante, les énergies opposées s'attirent, se polarisent et se jugent. Des énergies qui s'attirent dans un premier temps peuvent très rapidement se polariser et susciter ou nourrir des ancrages très négatifs. Se polariser veut dire que des énergies opposées qui se sont dans un premier temps attirées vont maintenant se repousser. Et en se repoussant, elles s'accentuent l'une l'autre. C'est la raison de nombreux conflits. Un parent ordonné va se polariser avec son enfant plus chaotique, et plus le parent va être identifié à sa partie hors des structures, plus l'enfant va se réfugier dans une polarité désordonnée. Un père banquier aura au moins un fils ou une fille pour qui l'argent n'a aucune importance, ce qui peut provoquer des querelles sans fin. L'énergie que nous avons reniée chez nous, nous ne supportons pas de la voir s'exprimer chez les autres, encore moins chez nos enfants. Or, ce que le parent a renié, l'un au moins de ses enfants doit l'exprimer. Ces polarisations sont des sources de souffrance dans la famille, dans le couple, dans la vie professionnelle, dans la vie sociale. L'un sera personnel, l'autre impersonnel. L'un sera introverti, l'autre extraverti. L'un pensera devoir, l'autre plaisir. L'un sera responsable et l'autre le sera moins. L'un sera actif, l'autre aimera se reposer, etc., etc. Septième loi, toute énergie reniée est projetée. La projection est une façon de jeter un pont vers l'autre pour entrer en communication avec lui. C'est un fonctionnement normal et positif. Cependant, lorsque c'est une énergie reniée qui est systématiquement projetée sur l'autre, cela pose de nombreux problèmes, y compris au niveau politique et social, comme nous pouvons tous nous en rendre compte. Au niveau personnel, lorsque cette projection automatique devient trop coûteuse, il est temps pour nous de reprendre l'énergie portée par l'autre, que ce soit une personne ou un objet. Pour clarifier tout ça, je vais vous donner quelques exemples. Prenons Laura. Laura a renié sa vulnérabilité. Dans la vie, elle se sent forte et elle est toujours entourée par des personnes très vulnérables qu'elle doit aider. Pourquoi ? Parce que ces personnes portent non seulement leur vulnérabilité normale, mais elles portent aussi celle que Laura a reniée et projette sur elle. C'est ainsi que le piège se referme. Laura est forte, les autres sont vulnérables, et Laura est obligée de venir à leur secours. Brigitte, elle, a renié son voleur et son agressif. Et elle a perpétuellement peur que les ouvriers qui viennent faire des réparations chez elle soient des voleurs ou des personnes agressives. Ces ouvriers portent leur propre dose d'agressivité et de malhonnêteté, active ou non active, celle de tout être humain, ni plus ni moins. Mais Brigitte, projetant en plus sa propre agressivité et malhonnêteté totalement reniée sur eux, ces ouvriers deviennent terrifiants. Ce que nous projetons sur l'autre le transforme en personne attractive si nous projetons du positif ou repoussante si nous projetons du négatif. Il en est de même pour les objets qui deviennent de ce fait une source d'attraction ou de répulsion. Fabien, comptable, respecté et respectable, tombe amoureux d'une vieille Jeep, symbole de son aventurier renié. Au grand désespoir de sa femme, cette Jeep, symbole d'une part de lui qui n'a pas de place dans sa vie, devient tellement importante qu'il va passer une grande partie de son temps libre et des sommes d'argent déraisonnables pour la remettre en état. Lucie, matérialiste et fière de l'être, va dépenser une fortune pour acheter un cristal vu dans une vitrine. Il faut qu'elle possède ce cristal, symbole d'une spiritualité à laquelle son rationnel ne veut pas ouvrir la porte. Huitième loi, l'énergie est neutre en termes de valeur. Le fait d'expérimenter une énergie comme bonne ou mauvaise dépend de notre interprétation. En elle-même, l'énergie n'est ni bonne ni mauvaise. Par contre, la laisser agir aura des conséquences. Et comme tout sur Terre est polarisé, les conséquences seront à la fois positives, c'est-à-dire qu'elles iront dans la direction souhaitée, et négatives, elles iront dans la direction opposée au but désiré. C'est ainsi qu'Arnaud Desjardins pouvait dire « Vous pouvez tuer, mais choisissez aussi les années de prison qui vont avec ». Neuvième et dernière loi. Nous ne pouvons voir que ce qui est déjà dans notre conscience. C'est une loi un peu difficile à accepter. Elle est cependant très souvent confirmée. C'est ainsi, par exemple, que les populations des pays où ont accosté les conquistadors ne pouvaient pas voir les navires qui s'approchaient. Que des masses aussi imposantes puissent flotter sur l'eau n'était pas possible pour eux. Ils ne les ont vus que lorsqu'ils ont été très proches du rivage. Seuls les chamans ont vu ces bateaux s'approcher de leur côte. La connaissance de cette règle est précieuse pour comprendre pourquoi notre connaissance mentale est extrêmement partielle. Nos sens ordinaires qui informent notre mental ne perçoivent que ce qui est déjà dans notre conscience. Autrement dit, si un fait n'est pas intellectuellement possible pour nous, nous ne le voyons pas. Ainsi se termine la première partie de la psyché et ses lois. Nous verrons dans une seconde partie comment certaines de ces lois vont servir le développement de la conscience et notre réalisation. C'était Véronique Brard. Merci et à bientôt.